L'avortement, ça fait pas trop recette en termes d'audience, quoi.
Non, clairement, disons-le, les hommes ne parlent pas de ça. Non, c'est la cata, quoi. Enfin...
Surtout entre garçons. Enfin, on se dit, on se soutient, on se dit, ah merde, c'est chiant. Elle va avorter, oui, elle va avorter. Bon, bah, tu lui souhaites bon courage et puis point barre, en fait.
Il y a des choses comme ça dont on parle qu'avec les femmes.
Mais comment on pourrait en parler plus ? On sait pas ce qui se joue. Je pense qu'on comprend rien en tant que mec. Peut-être tout, en fait. Peut-être qu'on comprend rien du tout. Du coup, on veut pas montrer qu'on est largué, alors on fait genre on gère la situation et tout, mais on gère que dalle. C'est l'autre qui gère.
X, Y, I, V, G.
On s'est rencontrés le soir même, puis la soirée se passe hyper bien, on discute. Enfin, c'était vraiment une soirée assez étrange, on a fini très tard et finalement on se retrouve chez moi. Et puis alors qu'on était hyper ivres, on commence à coucher ensemble et j'ai voulu lui faire un cunnilingus et elle m'a dit non, je veux pas et je comprenais pas très bien pourquoi. Et elle m'a dit à ce moment-là, je l'expliquerai plus tard. Et j'ai pas insisté, quoi. Et j'ai su après, en fait, qu'elle voulait pas que je fasse un cunnilingus juste parce que elle venait d'avorter ou quelques semaines auparavant ou quelques jours, je sais plus bien. On a fait l'amour ensemble et... Elle saignait, mais comme tu saignes quand t'as des règles, en fait.
C'est une amie avec laquelle j'ai partagé un appartement pendant plusieurs mois. On est coloc, comme on dirait maintenant, chacun dans sa chambre. Et donc, elle couche avec moi, parce qu'on s'entend bien, mais c'est vraiment en passant. Et suite à un repas un peu arrosé, on couche ensemble. Et j'apprends, mais quelques semaines plus tard, qu'elle a avorté. Donc je l'apprends après. Et je vais la voir pour en parler avec elle. Et là, j'ai 20 ans. Je sais que je suis assez en colère qu'elle ne m'en ait pas parlé. Et elle me dit, ben, ça ne te regarde pas. Moi, il n'est pas question que, voilà, que j'ai un enfant maintenant. Mais rétrospectivement, maintenant, je comprends tout à fait. Sur le coup, ça m'avait dérangé. Je pense que ce qui m'a dérangé, c'est que c'est la première fois que j'étais confronté à ça. Et que, voilà, quoi, j'avais, je ne sais pas pourquoi, l'idée idiote qu'on aurait dû en parler tous les deux. Alors que je n'avais pas plus envie de faire un enfant avec elle qu'elle avait envie d'en avoir avec moi. Donc, mais c'était plus l'idée, le fait que ça soit passé sans moi, qu'elle ait vécu ça toute seule, que, voilà, qu'elle ait pas éprouvé le besoin de m'en parler. C'est ça qui m'a un peu choqué.
Joël et moi, on est restés 6 ans en couple ensemble, avec une rupture qui a été longue et tumultueuse. On s'est séparés, remis ensemble, reséparés, remis ensemble. Je vivais encore dans l'appartement où nous habitions ensemble. Elle était partie, mais en laissant ses affaires. Elle frappe à ma porte à genre 2h, 3h du matin, ivre. Je lui ouvre, on s'engueule, on se fâche, on pleure, gna 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 gna. On finit par coucher ensemble. Plus ou moins par terre. 3 jours plus tard, on se sépare pour de bon. Donc, je prends une décision ferme qui est de la sortir complètement de ma vie. Et donc, je prends une copine qui traversait également une rupture difficile. Et paf, on va au Touquet. Là, on commence à déprimer pas mal. Il faisait moche, c'était sinistre. On buvait pas mal de Porto. On jouait à Carcassonne. C'était un peu triste. Et au bout de 2 jours, on se motive et on se dit, bien, on va aller au casino de Boulogne-sur-Mer. On laisse les téléphones à la maison, il y en a marre d'être esclave, on regarde si on n'a pas un SMS toutes les 3 secondes. On roule, le brouillard tombe, on se perd, on apprend que le casino a brûlé. Résultat, bah, on reprend la route dans l'autre sens, hein, sans être descendu de la voiture. On arrive à la maison et là, je vois 16 appels en absence sur mon téléphone. Je la rappelle et elle m'a clairement dit, en l'espace de 1 minute 30... Oui, allô, bah, j'appelle pour te dire que bah, suite à notre petite aventure, j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Et elle m'a répondu, bah, écoute, c'est très simple, il y a 2 solutions, comme c'est encore tôt, soit les médicaments, soit l'aspiration. Je crois que c'est un peu moi qui choisis. Et je lui ai dit, non, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va avorter ou pas ? Elle m'a dit, ah oui, non mais là c'est bon, la décision elle est prise, j'ai réfléchi. Et j'ai dit, et donc on n'en discute pas. Elle m'a dit, non, on n'en discute pas.
Je me rappelle qu'un soir, je m'endors, je me couche auprès d'elle et elle me dit, je crois que ça recommence. Et je suis sûr que je suis enceinte. Et le lendemain, on est allé acheter un test de grossesse. Puis on a pris un café, il faisait très beau, c'était au mois de juin, il y avait un grand soleil. Elle est allée aux toilettes, elle a fait son test de grossesse, qui était positif. En discutant, en s'écoutant et en donnant nos avis, on est tombé là, pour le coup, assez rapidement, d'accord. Ni elle ni moi n'avions envie d'avoir un enfant maintenant. Et c'était assez doux comme moment, c'était assez flottant. Moi, je vivais un peu cette scène de l'extérieur, enfin.
Je pense que si j'avais répondu au téléphone tout de suite, je pense que j'aurais eu la discussion avec elle de est-ce qu'il faut avorter ou pas. Mais je pense que ça n'aurait pas été constructif du tout. Parce que ma réponse à moi, à ce moment-là, c'était il faut le garder. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu veux que je revienne à Paris ? Elle m'a dit non, ben je vais profiter de ton absence pour vider l'appartement, parce qu'il y avait donc encore toutes ces affaires dans l'appartement. Peut-être je t'appellerai quand il s'agira d'aller à la clinique, mais sinon, on se tient au courant. Et du coup, j'ai dit, mais c'est horrible, en fait, tu peux pas me laisser au touquet avec ce temps de merde et ma pote dépressive. Moi, j'ai besoin d'être avec toi dans cette situation. Elle m'a dit, non, en fait, il est hors de question que tu rentres. Et genre, on était un vendredi ou un truc comme ça. Et elle m'a dit, laisse-moi le week-end pour ranger mes affaires. Tu pourras revenir lundi. Résultat, le lendemain, avec ma pote, on avait qu'une envie, c'était de se tirer une balle dans la bouche. Moi, j'essayais d'appeler Chloé assez souvent. Elle me répondait pas. J'envoyais des textos en mode « ça va pas très très fort là ?» Et elle me répondait pas. Je me rappelle que j'avais une espèce de peur, panique, de rentrer chez moi et de voir l'appartement vide. Donc on a profité du week-end pour aller chez Baobab, qui est une grande surface, genre le truffaut des zones d'activité commerciale en Normandie. J'ai claqué mon RSA pour acheter des plantes. Un caoutchouc, un yucca et des fougères en veux-tu, en voilà. Et voilà, après je suis rentré, elle n'avait pas avorté quand je suis rentré et ensuite on a suivi tout le processus ensemble, mais voilà comment je l'ai appris et comment j'ai été un peu privé de discussion. Sur le moment, ça a été dur de ne pas pouvoir en parler avec elle et je pense qu'il y a des tas de moments où je n'ai pas... respecter sa décision. Je l'avais quand même appelée alors qu'elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'être toute seule. Enfin, d'être en tout cas coupée de moi à ce moment-là.
J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais aussi que pour cette fille, cette fois-là, ça s'est pas trop mal passé. Ça n'a pas été quelque chose qui l'a profondément marqué. Peut-être que cette répétition a fait qu'on s'habitue. On s'habitue à tout, donc... Je me rends pas compte, ou peut-être parce que j'ai été là, mais là, je me jette des fleurs. J'essaie d'être là, franchement, j'essaie d'être le plus là possible.
Même si elle avait vidé l'appartement de toutes ses affaires pendant le week-end, et que j'avais mes fougères de chez Baobab à la place, le fait est qu'elle est plus ou moins revenue s'installer à la maison. Elle avait choisi d'avorter dans une maternité qui n'était pas très très loin de là où j'habitais. Moi, je crois que c'était une période où je travaillais pas trop. Elle non plus, donc on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble à en parler. Moi, j'étais hyper curieux. En fait, j'étais hyper curieux de savoir ce qu'elle ressentait physiologiquement. Parce que ça me fascine un peu. Je voulais beaucoup m'assurer que ça allait aussi psychologiquement, que... Vraiment, à chaque instant, je lui redemandais... ce qui n'était pas du tout une manière d'insister pour lui faire savoir que je ne voulais pas qu'elle avorte, mais je voulais m'assurer qu'elle était vraiment à chaque instant sûre de sa décision, que ça allait, finalement.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est que même si je n'arrivais pas à ressentir ce qui se jouait dans le corps de l'autre, puisque ce n'était pas mon corps, je trouvais qu'il y avait une espèce d'injustice, moi, qui m'a marqué. Une injustice à se dire, bon, bah, il n'y a que l'autre qui peut... Il n'y a que la fille avec qui je suis là qui peut avoir un enfant. Et Et l'injustice, c'est que si jamais il n'est pas désiré et qu'on doit passer par l'avortement et qu'il m'a-t-on dit quelque chose de douloureux, il n'y a que l'autre qui va le vivre de façon beaucoup plus intense que moi. Et ça sera comme ça pour toutes les femmes et comme ça pour tous les hommes. C'est plus cette espèce d'injustice que je ressentais que j'ai essayé de réparer en essayant de partager le plus possible ce moment-là. En faisant un moment où on est deux et pas un moment où l'autre est seul. Seul avec son corps, ça, je trouve que c'est dur.
Je sais que vraiment quelque chose était en train de se passer et ça se voyait. Je pense que c'est une fille qui a vraiment été toujours très 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 sensible à des pics d'hormones, peut-être comme toutes les femmes. Et en tout cas, elle avait des syndromes prémenstruels toujours qui étaient très marqués. Elle avait des sautes d'humeur qui étaient très marquées. Elle a dû arrêter de prendre la pilule parce que c'était trop compliqué, qu'elle ne le gérait pas. Et clairement, ça, c'est hormonal, il n'y a pas à chier, quoi. Et donc, d'avoir toutes ces perturbations hormonales qui sont liées à la grossesse, c'était un festival, quoi. Et donc, il y avait effectivement une libido qui était vraiment, à vrai dire, la dernière année de notre relation. On n'avait pas couché ensemble, à part cet épisode de Noël. Donc, c'était fou, quoi. C'était d'un seul coup, le jour et la nuit. Et elle-même, elle se sentait vachement plus désirable et elle était... Elle était évidemment hyper peinée parce que cet avortement la minait, tu vois. Mais d'un point de vue hormonal, elle était mieux. C'était très bizarre. Enfin, on a été pendant ces 3 semaines qu'on a passé à vivre ensemble un peu en autarcie. On sortait pas beaucoup, on voyait pas grand monde. Dans un appartement à moitié vide avec des fougères. Enfin, c'était bizarre et on baisait tout le temps. Et on était, ouais, sur un truc qui était entre le bonheur de se retrouver, qui était sans doute conditionné par les hormones, et la tristesse de ce geste qui allait venir, qui n'était pas ontologiquement triste, mais qui était un peu triste, notamment parce qu'il allait marquer la fin de cette période. Enfin, ça a été une période très bizarre, qui était vraiment à la fois joyeuse, insouciante, libidineuse et sordide. Parce que clairement, on n'était plus un couple. Enfin, on le savait, on s'était vraiment remis ensemble dans cette parenthèse. On a beaucoup parlé de parenthèse.
C'est marrant, il y a une espèce de sentiment d'urgence, de « mince, qu'est-ce qu'on va faire ? On avorte pas, tout ça. » Enfin, on. Je dis « on » parce que normalement, c'est mieux d'en parler à deux, mais en fait, c'est que moi, je n'avorte pas. Donc, il y a cette espèce de sentiment d'urgence, et puis qu'après, qui rentre dans une espèce de lenteur, comme ça, de langueur, un peu.
Cette période pré-avortement a duré une éternité. Je pense en plus que elle a été mal orientée. Enfin, je me souviens que c'était hyper galère, que le parcours était compliqué. Alors que moi, je m'attendais vraiment à ce que, en gros, t'ailles au planning familial et que tu dises « bonjour, je voudrais avorter », on me dit « très bien, il faut attendre une semaine, signer le papier et puis voilà, vous avortez ». En fait, non. Tu dois vraiment te démerder et t'es un peu perdu dans la pampa. Ça a duré un temps fou, finalement, entre le moment où la décision était prise et le moment où elle a pu avorter, il s'est écoulé, je sais pas, presque 3 semaines, peut-être un mois. Enfin, dans mon souvenir, c'était très long. Et c'était très désagréable. C'était une période horrible. Et à un moment, on voulait juste que ça soit fait, quoi, qu'on n'en parle plus.
À ce moment-là, j'ai 22 ou 23 ans. C'est une jeune femme américaine qui a 18 ans, qui fait beaucoup plus, qui est jeune fille au pair. Et c'est la première nuit qu'on passe ensemble et elle utilise une éponge avec du gel spermicide. Donc une éponge qu'elle met dans le vagin avec du gel spermicide. Et puis on a des relations comme ça, on se retrouve à Berlin, elle m'invite à la retrouver à Berlin, et en revenant de Berlin, elle m'annonce qu'elle aussi est enceinte. Elle ne veut pas se faire avorter, dans un premier temps. Donc elle en parle à ses parents, qui sont aux États-Unis, et ses parents lui disent « Il faut que tu rentres, tu auras ton enfant avec nous, ton copain peut venir s'il veut, il trouvera du travail et tout. » Et moi, je suis terrorisé. Notre relation déjà se délite, on ne fait plus l'amour ensemble, pratiquement. Et c'est la perspective de me retrouver dans le Colorado, d'élever un enfant avec une femme que je n'aime pas, et un enfant que je n'ai pas voulu, je suis complètement terrorisé à cette idée. Et je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée qu'elle l'aide, donc je veux la convaincre d'avorter. Et au départ, elle veut le garder. Mais à mon avis, beaucoup sous l'influence de ses parents, qui sont assez conservateurs. Donc il y a quelques jours comme ça, très tendus, parce que j'envisage pas une seconde, par contre, de ne pas jouer mon rôle. Je sais que je vais aller dans le Colorado, que je dois assumer et que je dois élever cet enfant. Donc j'irai dans le Colorado faire cuire des hamburgers. Alors, j'ai pas une grande carrière à l'époque, hein, je fais du marketing téléphonique et tout, ma vie est pas trop en place, mais j'ai pas envie d'aller... On a beaucoup de discussions, des discussions houleuses, on s'engueule, bon. Et puis un jour, elle vient à mon boulot, à midi, et elle me dit, bon, je vais avorter. Et comme elle est jeune fille au pair chez des riches dans le 16e, ils l'ont envoyée à leur médecin qui se propose de réaliser l'avortement dans une clinique privée.
Vers la fin de la parenthèse, elle est allée à la maternité. Elle a voulu que je l'accompagne. Donc j'y suis allé. Elle est dans cette maternité, un peu avec des semelles de plomb, la mort dans l'âme. Enfin, j'ai dit qu'à un moment donné, j'ai pensé que garder cet enfant était une bonne idée. J'ai rapidement changé mon fusil d'épaule. Je savais qu'on se séparait pour les bonnes raisons et qu'en fait, on ne fait pas naître un enfant dans ces conditions. Clairement, moi, je voulais un bébé pansement qui allait recoller les morceaux de notre relation. En plus, j'avais toujours voulu être un jeune père. Dès que j'avais rencontré Chloé, on avait 19 ou 20 ans, et moi je voulais qu'on soit parents tout de suite, je trouvais ça trop cool. Et donc là, on avait 26 ans, ça commençait à s'étioler un peu, je me disais, ouais, mon fantasme du jeune père est en train de passer à la trappe, c'est peut-être l'occasion. Non, en vrai, assez rapidement, je me suis dit, non, l'avortement, c'est la bonne solution. Et j'ai vachement dédramatisé le truc, j'ai toujours été militant pro-avortement. Donc vraiment, quand on est allé... à cette maternité pour avorter, moi j'étais pas du tout dramatisé, enfin, j'avais de la compassion pour elle parce que son corps allait subir un traumatisme, j'avais de la compassion pour elle parce qu'elle était triste, j'étais moi-même un peu triste parce qu'on se rapprochait vers la fin de cette parenthèse qui était quand même vraiment joyeuse. C'était une anesthésie générale, je crois, pour l'aspiration. Et donc on m'a dit que ça allait durer assez longtemps, et donc on m'a dit que ça servait à rien que je l'attende à la maternité, qu'elle allait se réveiller vers... On y allait le matin, elle m'a dit qu'elle sera réveillée vers 15-16 heures, donc revenez à ce moment-là. Et je suis revenu la chercher en voiture, alors que la maternité était vraiment pas du tout loin, mais j'avais pas envie qu'elle prenne les transports en commun après ça. Elle non plus d'ailleurs. Bon, elle était très fatiguée. Moi, j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'elle ressentait dans son corps, psychologiquement aussi. Et elle n'a pas voulu me parler. Elle n'a pas voulu. Et les quelques jours qu'on suivit ont été assez tristes. Moi, j'étais pas dans le drame de l'avortement. Je pense qu'elle, elle y était. Elle l'a pas du tout bien vécu. Et là, avec le recul nécessaire, je sais qu'elle ne l'a pas bien cicatrisé non plus.
Moi, j'étais surpris. En fait, je trouvais ça injuste, mais j'ai aussi été très admiratif de la façon dont la fille avec qui je suis a géré cette situation. Enfin, je me rappelle que je trouvais que c'était... Enfin, moi, j'aurais été paniqué. En plus, souvent, les mecs, quand même, c'est pas les plus courageux avec leur propre corps, alors... truc qui est au fond de toi, que tu veux plus, faut l'éjecter, enfin c'est un... Moi ça me semble être impossible, enfin j'ai l'impression que si ça m'arrive, je meurs d'angoisse en fait.
Et on va à la clinique privée dans le quartier de la Muette. Et notamment, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un étage de la clinique qui est en travaux. Et c'est à cet étage-là qu'ils ont mis sa chambre. L'intervention a lieu dans la journée. Et donc, elle est dans une chambre. Il y a des travaux et du marteau-piqueur. C'est la seule chambre qui est occupée à cet étage. Et c'est la chambre de la jeune femme qui va avorter. Et moi, je l'ai accompagnée. Et puis, je suis parti dans le quartier. Et puis, je reviens et elle est endormie. Et elle est nue, je crois. Et elle a ses draps, le drap d'hôpital qui est un peu comme fait en papier. Et il y a des travaux monstrueux partout. Donc, elle se réveille, elle est très fatiguée. Et elle ne veut pas rester dans cette chambre où c'est impossible de se reposer. Et on descend payer, et je nous revois dans le bureau, on doit payer l'hospitalisation, et l'intervention, et la journée, et c'est, je me rappelle, horriblement cher. Alors, mais ce qui me choque, c'est pas tant de payer, je crois qu'on partage, je sais plus si je paye tout ou si on partage, mais je crois que l'intervention, ça doit être 1000 francs à l'époque, et la chambre, 1000 francs. Et moi, ce qui me rend vraiment furax, c'est qu'il lui fasse payer 1000 francs une chambre dans un étage qui est en travaux. Et comme par hasard, j'ai l'impression qu'il cherche à la punir. J'ai l'impression que cette clinique privée, vraiment, n'aime pas l'avortement et cherche à la punir en l'ayant mis dans cette chambre-là, à cet étage-là. Et je me souviens que c'est vraiment, vraiment une journée épouvantable, tout ce truc-là d'arriver, les travaux, le bruit. On est au métro La Muette, on prend un taxi pour rentrer chez moi. Et il y a beaucoup plus de tendresse avant et après l'avortement. Je crois qu'il n'y en a pas eu depuis le début de notre relation. Et puis quelques jours après, elle va prendre l'avion et rentrer aux États-Unis. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai envoyé des lettres, une lettre qui est restée sans réponse.
Le rapport à la paternité, il s'exprime pas que à deux, il s'exprime aussi à deux, parce qu'il s'exprime au sein d'un couple, mais il s'exprime aussi de façon très individuelle. Quelque chose d'animal presque qui se réveille. La paternité, c'est quand même une espèce d'instinct aussi. Se joue de façon irrationnelle des émotions qu'on ne peut pas maîtriser. Est-ce que l'éducation, elle peut venir endiguer ces réactions trop fortes et néfastes? Est-ce qu'elle doit le faire? De quelle manière?
À 30 ans, je rencontre une femme qui a 30 ans, très amoureuse. Ça part vraiment très vite. Et c'est une chouette histoire. On est vraiment très, très amoureux. Surtout, on s'entend bien, on se marre bien. Au bout de quelques semaines, je suis invité à un festival et je lui propose de venir avec moi. C'est la première fois qu'on part un week-end ensemble. Et on se promène et elle me dit... cette histoire est importante. C'est pas une histoire parisienne, c'est pas juste un plan cul comme ça. Je pressens que notre histoire est importante, qu'elle va durer, qu'il y a un vrai truc entre nous. Et je lui dis, écoute, c'est bizarre, ça fait plaisir que tu me dis ça, je ressens exactement la même chose, j'osais pas le dire, machin, enfin, tous les deux. Et je me rappelle qu'on se dit à ce moment-là, elle dit, on est grave. Et en jouant sur le double sens du mot grave. Et donc, on se rencontre en avril, et on fait l'amour, avril, mai, juin, sans contraception, trois fois par jour. Et en juillet, aux surprises, elle est enceinte. Donc elle me l'apprend par téléphone, je vais la rejoindre chez elle. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle me dit, je veux pas le garder, je veux avorter. Il s'est joué là, ce soir-là, quelque chose de très étrange, parce qu'on en parle, mais très peu. Et je sais même, soit ce soir-là, soit dans les jours suivants, qu'on se dit... Ah ben c'est pas le moment, mais on va faire un enfant ensemble, mais pas celui-là, on va en faire un autre plus tard. L'avortement va avoir lieu, elle va avorter, et on reste ensemble, et quelques mois après, quelques semaines après, elle va emménager chez moi, quelques mois après, on va prendre un appartement ensemble, on rentre dans une relation de couple stable, monogame, qui va durer plusieurs années, et 4 ans après le début de notre histoire, elle me quitte, et elle me dit... Je te quitte parce que tu ne m'as pas empêché d'avorter. Pour moi, quand elle dit qu'elle veut avorter, la discussion est close. Mais en fait, c'est un lâche soulagement. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas de CDI ni l'un ni l'autre, on n'a pas beaucoup d'argent, on est tous les deux en pige. J'ai l'impression qu'en fait, à ce moment-là, la décision de l'avortement, elle obéit pas à notre désir réel à nous, qu'on n'a pas questionné, qu'on n'a pas établi. J'ai l'impression que si cette conversation avait duré une heure, elle n'aurait pas avorté. On aurait gardé cet enfant. Il se trouve d'ailleurs qu'un an après, on avait tous les deux un CDI, on avait plein de fric, on aménageait dans un appartement somptueux. Et il se trouve, mais ça je l'ai su bien plus tard, je l'ai su il y a peu de temps, que 5 ans après, elle va apprendre qu'elle est stérile. C'est-à-dire qu'en fait, c'était cet enfant-là. Elle n'en a jamais eu d'autre. Elle n'en aura pas d'autre. Et elle n'a pas pu en avoir d'autre. Et c'est un grand malheur dans sa vie. C'est une grande détresse pour elle et c'est une grande détresse pour moi qui n'ai pas eu d'enfant non plus. En fait, c'était cet enfant-là qu'on devait avoir. Et c'est celui-là qu'on a avorté alors qu'on avait tout fait pour l'avoir. Dans notre rapport par la suite, on a passé 4 ans ensemble, mais on faisait très peu l'amour. L'avortement a tué le désir entre nous, très rapidement. Il a tué le désir. J'en suis sûr maintenant. C'est-à-dire, elle avait raison, dans le sens que c'est cet avortement qui avait foutu la merde entre nous, alors que nous, on n'en avait pas reparlé. Et c'était pas un tabou, mais on n'en parlait pas si souvent par la suite. Et en fait, c'est ça qui nous a flingués en tant que couple. C'est ça qui a flingué notre intimité et notre désir. Si on s'était dit, bon, allez, ok, maintenant on en fait un, on serait remis à avoir du désir et à faire l'amour. Il y avait quelque chose qui était lié là-dedans et qu'on a refusé de voir et de comprendre. Après, j'ai eu 40 ans, j'ai été avec des femmes de 40 ans ou plus et il n'y avait pas de possibilité d'avoir un enfant. Et quand il y a eu la possibilité, j'en ai voulu et il n'y en avait pas, quoi. Mais...
En gros, 6 mois après l'avortement, j'ai décidé de la sortir complètement de ma vie. Et j'ai plus eu de nouvelles pendant près de 3 ans. On s'est revus après 3 ans. Et il y a eu un moment où on a beaucoup bu. Et ce sujet est revenu sur la table. Enfin, on était vraiment très saouls. Et on s'est remis à parler du bon vieux temps et... du coup, ensuite, du moins bon vieux temps. Et je lui ai dit un truc du genre, putain, t'imagines que si t'avais pas avorté, là, notre enfant, il aurait 2 ans et demi. Et en disant ça, j'ai vu passer une espèce d'ombre dans son regard. Et elle m'a dit, ce n'est pas drôle du tout. Et là, j'ai dit, bien, on va vomir. J'avais pas été sensibilisé à ces questions-là, je l'aurais très mal vécu. Soit je l'aurais très mal vécu, soit j'aurais eu un comportement proprement inacceptable, tu vois. D'insister, de lui dire la conversation va avoir lieu, j'ai mon mot à dire aussi.
Le fait d'en faire cette revendication politique, c'est compliqué parce que bien sûr que c'est extrêmement juste. Ma compagne et moi, la conclusion qu'on en a tirée, c'est que là, pour le coup, on s'est fait avoir par la politique. On s'est fait avoir par notre culture politique. C'est-à-dire que vraiment, on l'a fait presque pour se faire plaisir, pour se valoriser politiquement, pour se dire qu'il fallait le faire parce que c'est ça qu'on doit faire.
Après avoir vécu cela, après avoir accompagné d'aussi proche quelqu'un qui a traversé ça, je ne supporte pas qu'on remette en question le droit à l'avortement. Parfois, je ne supporte pas qu'on remette en question la dédramatisation de l'avortement. Au point que j'en viens à dire que le fait que les femmes puissent en ressortir pas indemnes, c'est un son de cloche qui n'a pas voix au chapitre. Je me demande si c'est important de le dire. Je crois qu'il y a des choses plus importantes à dire que ça. Je pense à radicaliser mes positions à bien des endroits qu'il faut certainement pas arrêter de se battre.
XYIVG, signé Camille Jusot. Musique, H4N, Ziga.